Gapozienne, Gapozien, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de Gapo FM 100.9 dans l'émission Sans filtre by ALM. Alors ce soir, j'ai le plaisir. Oh, attends, comment c'est l'émission ? Tu vois, des fois, je. Voilà. Ah, je remonte. Oui, donc je vous disais là, je maîtrise pas trop la technique là. Je vous disais ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Avella. Alors Anthony, bonsoir.
Et bonsoir Alain.
Et encore merci d'avoir accepté mon invitation dans l'émission Sans filtre by ALM sur Gapo FM 100.9. Je dis ça parce que vous avez un emploi de temps presque comme un premier ministre. Pas loin.
Ouais, je ne sais pas ce que ça représente le travail d'un premier ministre, mais disons qu'à mon échelle, j'ai pas mal de boulot, ouais, comme tout le monde. Donc voilà, mais c'est toujours agréable d'être invité. Et donc je remercie Gapo FM de cette invitation pour cette émission.
Alors Anthony, en relisant l'interview que vous aviez, comment dire, pas que vous avez, oui, que vous aviez donné en 2023, oui. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de termes dans la langue de Shakespeare. Et comme il n'y a pas que des spécialistes à l'écoute, je vous demanderai la traduction en français dans la mesure du possible, bien sûr.
Ok, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai que le roller freestyle, comme je pratique, et les noms des figures sont beaucoup en anglais. Donc, si jamais il y a besoin d'une traduction, on s'essayera.
Voilà, parfait. Alors, en quelques mots, Anthony, pouvez-vous vous présenter ?
Eh bien, donc, je m'appelle Anthony Avella, j'ai 42 ans. Je suis pratiquant donc, depuis 30 ans de roller freestyle et j'habite à Toulon. Voilà, et je suis né à Toulon aussi.
Avant de venir sur votre domaine de prédilection, pouvez-vous nous parler tout d'abord de votre environnement familial ainsi que de votre parcours scolaire ?
Alors, je suis dans l'environnement familial, je suis le papa de trois enfants, trois petits garçons. Donc, Meysan, Gianni et Mani, que j'embrasse très fort. Voilà.
Le parcours scolaire.
J'ai un parcours scolaire classique. Hein. Je suis allé jusqu'au lycée professionnel avec un BEP CAP de vente. Et par la suite, après, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif.
C'est parfait. Ceci étant précisé, avez-vous de suite adhéré à la discipline qu'est le roller qui a fait de vous un grand champion ou avez-vous pratiqué d'autres sports avant ?
Alors, moi, le sport, je l'ai commencé très tôt. J'ai commencé je crois que j'ai fait ma première année, je devais avoir 5 ans, j'ai commencé par le judo. Ensuite, j'ai pratiqué le karaté pendant de nombreuses années, jusqu'à mes 12 ans. J'ai appris. Vers mes 11-12 ans, je pratiquais donc le vélo, un peu de vélo, un peu de skateboard. Parce qu'à cette époque, en fait, on était des gamins de rue, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'était pas à l'époque des écrans, on était tout le temps dehors. Donc j'ai très vite bricolé tout ce qui roulait, donc skate, vélo. Et ensuite, j'ai découvert le roller sur les plages du Morillon. Et c'est vrai que cette sensation de pouvoir rouler avec quelque chose au pied, ça m'a plu de suite. Donc oui, j'ai accroché par la suite, quoi. Donc après, j'ai toujours continué un petit peu les sports de combat à côté. J'ai fait du Kempo, ça va vous plaire, Alain.
Oui, bien sûr.
Et donc de la boxe thaïlandaise. Et il y a quelques années en arrière de ça, je me suis essayé aussi à la boxe anglaise parce que j'ai eu pendant ma carrière pas mal de soucis aux épaules, mais j'ai quand même essayé ce sport qui m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà, j'ai un attrait pour les sports de combat qui me plaît aussi, en même temps que la glisse.
Vous êtes un véritable VRP du sport, si je puis dire.
Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'aime le sport et je pense que c'est un très bon moyen d'expression pour tout le monde, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés aussi.
Donc, nous allons rester sur vos débuts en roller. Et à ce sujet, j'ai relevé deux anecdotes assez croustillantes. Vous allez nous parler des patins de votre sœur, si vous en souvenez.
Ah oui, alors à l'époque, oui, parce que le tout premier souvenir que j'ai eu, que je me remémore, c'était devant chez mes grands-parents. On était dans le garage de mes grands-parents et je crois que mon grand-père à l'époque avait ramené des petites patinettes en métal avec une sangle en cuir, avec des roues même qui étaient en métal. Donc c'est vraiment mon tout premier souvenir où j'ai découvert la sensation des rollers. Voilà, ça a été juste le temps d'une après-midi parce qu'on était très très jeunes. Voilà, ça c'était vraiment le tout premier souvenir que j'ai par rapport à ça.
Alors, nous allons y revenir parce que c'est l'actualité, votre actualité est vraiment très prenante. Et je sais que au début, c'était un peu difficile pour vous. Vous avez été même laveur de vitres, de voitures, pardon, pour faire des sous.
Oui, c'est ça. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était des enfants de rue. Et en fait, du coup, l'éducation que j'ai eue avec mon père, ça a été très tôt de savoir que dans ma famille, ils ont tous été garagistes. L'éducation, c'était il faut que tu te débrouilles par toi-même. Et mon père me ramenait souvent à me demander, à me questionner, à me dire comment ils font les autres pour y arriver ou comment ils font pour acheter ça. Je devais trouver des idées. Puis je me rappelle un jour, j'ai vu des jeunes comme moi qui étaient postés au feu rouge des carrefours et qu'il avait les vitres des voitures. Avec les collègues de là où j'habitais, au Morillon, là c'était Mireille, on s'est essayé à ça, on a acheté nos raclettes, notre produit à vitres et tous les matins on se postait pendant les vacances scolaires, on se postait sur le feu rouge de la passerelle de Mayol et on lavait les vitres des voitures. C'est vrai qu'à cette époque, quand même, on arrivait à chaque fin de matinée, on faisait entre 30 et 50 francs la matinée, ce qui était énorme parce que l'après-midi, on pouvait s'acheter nos Mister Freeze, nos boissons, même un ticket de cinéma, voilà. Donc, c'est grâce à ça que j'ai acheté mes premiers rollers, oui, mes tout premiers rollers.
Vous n'étiez pas exclusivement fixé sur le roller quand vous mélangiez un peu tous les sports qui utilisent des roues. Les caisses à savon, j'ai noté, caisses à savon, BMX et skateboard, pardon.
Oui, c'est ça, oui. Ça, c'était vraiment les tout débuts parce que vu qu'à côté de chez moi, il y avait des pentes, parce que dans le quartier du Morillon, c'est assez vallonneux, on va dire. On cherchait toujours à trouver des engins pour pouvoir descendre les pentes et s'amuser. Donc, c'est vrai qu'on bricolait beaucoup de choses avec des skateboards, avec tout ce qu'on trouvait, qu'on pouvait trouver même parfois dans les poubelles et tout ça. Donc, on a varié les plaisirs comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu une époque où j'ai pratiqué quand même pas mal de skateboard pendant quelques années avant de vraiment bloquer sur le roller. J'en pratique toujours encore aujourd'hui du skateboard de temps en temps. Donc voilà, mais après, c'est vrai que j'ai bloqué vraiment sur la discipline qui m'a plu le plus.
Votre lieu de naissance, vous l'avez dit, c'est Toulon, mais êtes-vous toujours resté ici? Ou bien, et je citerai cette phrase de Charles Eccardi, que ses lèvres de Toulon s'élèvent de la raison.
Eh oui, qui s'en va de Toulon perd la raison,
Voilà.
oui.
Vous m'avez traduit exactement ce que je voulais, parce que je dis toujours ceux qui n'ont pas fait provençal première langue, il faut la traduction, et Anthony vient de nous la donner. Donc,
Voilà.
est-ce que vous êtes resté à Toulon ou vous êtes parti un petit peu?
Alors, je suis bien né à Toulon, oui. Je suis resté pendant pas mal d'années. Il y a eu une période je suis parti environ un an sur Nice. Quand j'ai fini mes études, donc de 18 à 19 ans, c'était mon premier emploi jeune là-bas où j'ai commencé à donner des cours de roller. Donc je suis parti au final que un an de Toulon. Et je suis vite revenu
Voilà.
avant de perdre la raison, bien sûr.
C'est ce que j'allais dire. Vous faites vos premières gammes à Toulon où il y avait une rampe. Une rampe, alors on traduit, c'est une courbe. C'est exact, Anthony?
C'est ça, c'est une structure en forme de U qui permet d'aller d'un endroit à un autre. Voilà, c'est ça une rampe.
Alors j'ai noté, est-ce que le terme, c'est un terme anglais, spine, on dit?
Alors,
Quelle est la traduction de spine? Si vous l'avez.
Spine, comme ça, en fait, une rampe à spine, c'est l'association de deux rampes qui se rejoignent. Donc voilà, mais après, c'est vrai que j'ai pas vraiment la traduction pour dire pourquoi ça s'appelle spine, je sais pas, mais en tout cas, en anglais, spine, il me semble que c'est la colonne
Ouais,
vertébrale.
voilà exactement. J'ai regardé sur la traduction là, sur Google, et il m'a marqué colonne vertébrale.
C'est ça.
Et vous aviez des rollerball au pied. C'est ça, rollerball,
Ouais,
roller.
rollerball, c'était
Ouais.
le donc du coup la La deuxième paire de rollers que j'ai eue après, parce que en fait, la première paire que j'avais achetée, c'était une paire donc à Carrefour qui était tout en plastique, qui n'était pas vraiment adaptée. Après, ils avaient sorti donc ces fameux rollerballs, c'était deux rollers avec deux grosses roues où ils avaient fait une communication bien ciblée à l'américaine. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est la première paire officielle que j'ai eue, ça a été ça. Je ne les ai pas gardées longtemps parce que c'était pas très adapté. Et voilà.
On disait donc votre première paire, vous l'avez achetée à Carrefour. Alors il faut que je cite, ça aurait pu être Auchan parce que
Oui, ou
René m'a dit
Leclerc,
il
ou
faut
machin, mais bon,
citer.
c'est vrai que c'est, vu que je faisais les vitres à la passerelle de Mayol,
Voilà,
j'y suis allé juste à côté.
mais vous aurez très bien pu l'acheter à Auchan. Il faut que je cite toujours parce que sinon René il va m'engueuler. Et vous allez découvrir Toulon au fil des rues. Quel âge avez-vous quand vous avez vraiment accroché?
Quand j'ai accroché sur le roller,
Oui.
j'ai 13 ans, 13 ans, ouais, 12-13 ans, c'est ça.
Je dirais que vous avez eu cette révélation un peu comme Bernadette Soubirous qui a vu la Vierge. Vous faites des... Alors, c'est des airs, c'est ça? Est-ce que le terme français est correct? Airs?
Ouais,
Alors,
c'est
les
ça.
airs, une traduction, Anthony, s'il vous plaît.
Ouais, les airs, il est assez simple. C'est quand on s'élève au-dessus de la rampe et qu'on est dans les airs. Donc, c'est
Parfait.
simplement un saut. Donc,
Voilà,
voilà.
c'est de la logique.
Ouais.
Et, alors, j'ai noté, vous sautiez au-dessus du coping.
Alors, le coping, oui, le coping, c'est la petite barre métallique qui est juste au-dessus des rampes. En fait, ce qui nous permet de pas sortir de la rampe. Et qui nous donne un repère aussi pour pouvoir sauter au bon moment et atterrir dans la rampe.
Il fallait le préciser.
Voilà.
J'ai noté, en gros, vous vous envoyez en l'air.
En quelque sorte, oui. On défie les lois de la gravité. C'est pas mal. C'est vraiment une bonne sensation.
De 90 à 95, 1990 à 1995, vous pratiquez avec une bande de potes, une communauté. Vous êtes... Alors, cette bande de potes, Anthony, donnez-nous quelques noms, si vous en souvenez.
Oui, bah, principalement, il y avait Morgane, Jimmy, Eric, on était vraiment Olivier, Eri, il y a eu beaucoup de monde. Voilà, j'ai encore quelques noms en tête, quelques personnes aussi que je vois encore, que je côtoie toujours, d'autres non. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était le gros boom du roller en France et même mondial. Avec des ventes exceptionnelles de partout. Donc, on a été énormément à pratiquer cette discipline. Et c'est pour ça que c'était une communauté. Et ça reste quand même une communauté, le roller freestyle, dans le monde entier, hein. C'est vrai, quand on part dans des compétitions, il suffit qu'on rencontre, je sais pas, je te dis, des Brésiliens, des Chinois, des Coréens, de toute nationalité. Y a pas, on est très vite accueillis et on a l'impression vraiment de faire partie de la même famille, même si on ne se connaît pas et que c'est la première fois qu'on se voit. On a des codes entre nous. Par exemple, si vous êtes en galère dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle ville, il suffit de passer un coup de téléphone. Et s'il y a un rider roller qui est là, ben, généralement vous trouvez un toit pour vous loger ou quelqu'un pour vous dépanner. Donc c'est ça aussi l'avantage de cette communauté, c'est cet esprit-là, quoi.
Je dirais que ça ressemble un peu au rugby, et il n'y a pas d'animosité comme au foot. Plutôt l'ambiance du rugby, famille, ici et
Ah,
là.
c'est l'ambiance, moi je le vois pas, avec les gens du club. On a organisé déjà quelques événements à l'accro. J'ai beaucoup de parents qui ont été surpris de l'ambiance générale en me disant que c'était vraiment cool, qu'il y a beaucoup d'échanges. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, y a pas du tout d'animosité. Il peut y avoir de la rivalité sportive, ce qui est normal. Mais après, c'est vraiment friendly, comme j'ai envie de dire en anglais. C'est très amical.
Exactement. Alors, vous êtes autonome, votre apprentissage ne s'est pas fait dans les livres d'histoire, je fais une référence à Henri Fonda dans Mon nom et personne, mais dans les mensuels qui s'appelaient...
Alors, on a eu Crazy Roller, Roller Mag, c'était des magazines qui sortaient donc mensuellement. Et c'est vrai que on attendait ça avec impatience et on filait directement à la papeterie pour acheter le dernier magazine et être au courant donc du coup des riders professionnels, des nouvelles figures qui pouvaient sortir. Et donc voilà, c'était surtout par la lecture. Il y avait quelques VHS aussi qui sortaient de temps en temps, mais c'était plus magazine, support papier, oui.
À 14 ans, et à 14 ans, je crois que c'est votre première compétition avec plus ou moins un an et demi de pratique.
C'est ça, oui.
Alors, elle s'est déroulée où, cette compétition?
Alors, la première compétition, elle s'est déroulée à Cannes, C'était un circuit en fait où il y avait trois étapes, ça s'appelait l'Azure Street Tour. Et donc c'est là que j'ai fait ma première compétition que j'ai remportée. Et j'ai été du coup remarqué très rapidement par des marques, des sponsors qui m'ont pris dans leur équipe. Et du coup, ça a été mon premier tremplin, quoi. Et pour la petite anecdote, j'ai failli ne pas y aller parce que le matin, je m'étais trompé de rendez-vous avec la voiture du collègue. J'étais à un autre endroit. Et au final, ils ont fait demi-tour. Ils sont quand même venus me chercher, même s'ils étaient un peu énervés. Mais au final, voilà, c'était pas pour rien.
Alors, je vais essayer de poser une dernière question, une anecdote, parce que avant qu'on ait la pause musicale. Donc, je disais encore une anecdote à se mettre sous la dent. Je vais vous comparer à Sir Johnny Wilkinson, car vous arriviez le premier sur la rampe de Toulon et vous étiez le dernier à partir. Est-ce exact?
Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors la comparaison est très flatteuse, parce que, on n'est pas dans les mêmes domaines de prédilection, mais c'est vrai qu'au niveau de l'engagement que j'avais, de l'engouement que j'avais, j'arrivais le premier à la rampe. Je passais la raclette dessus, j'avais mon sandwich qui était préparé, je continuais toute la matinée. Je mangeais mon sandwich, je roulais jusqu'au soir. À l'époque où c'était l'époque des petites copines, j'avais pas de petites copines. Je restais à travailler mes figures sur la rampe. Et donc j'ai un nombre incalculable d'heures d'entraînement par rapport à ce que je me suis imposé, enfin sans vraiment me l'imposer, mais c'est parce que vraiment j'aimais ça. Enfin, j'aimais faire ça.
Tout à fait. C'était la comparaison avec Wilkinson, puisqu'il arrivait, il tapait sans arrêt, le dernier à partir. Anthony, nous allons faire une courte page de pub et je vous reprends juste derrière, après le déroulement des publicités.
A este corazón, todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, todos los días yo a Dios le pido.
Que vous soyez scorpion, poisson, capricorne ou autre, Fred s'occupe de vous. Retrouvez l'horoscope de Gapo FM tous les matins et toutes les heures de 6h30 à 11h30, week-end compris. Alors, commencez la journée du bon pied grâce à Fred avec l'horoscope de Gapo FM 100.9.
Cet été, ne manquez pas l'événement incontournable dans la vallée du Gapo. Le festival du château de Solliès-Pont revient dans le cadre exceptionnel du parc du château avec 4 soirées, 4 grandes stars de la chanson française. Mercredi 15 juillet, Christophe Maé ouvre le festival. Jeudi 16 juillet, retrouvez Calogero. Vendredi 17 juillet, la révélation Elena. Et en clôture, samedi 18 juillet, Kenji Girac. Un festival à vivre en plein air au cœur de l'été. Billetterie disponible à l'office de tourisme de la vallée du Gapo. Le festival du château de Solliès-Pont, un événement Sud-Concert.
Vous souhaitez accompagner une équipe ou diriger un service dans le secteur social ou médico-social? Formez-vous au certificat d'aptitude de responsable d'unité d'intervention sociale avec le Centre de formation Croix-Rouge Compétences à Olioul. Dans le cadre d'une évolution professionnelle ou d'une reconversion, vous pouvez bénéficier d'un parcours de formation adapté de 12 à 24 mois pour la rentrée d'octobre prochain. Pour vous inscrire, rendez-vous au Centre de formation Croix-Rouge Compétences à Olioul, 201 chemin de Faverolles ou sur croix-rouge.fr.
Gapo FM,
dans la vallée de la Sauve-Bonne,
100.9.
Donc, je suis toujours avec Anthony Avella, champion du monde de roller. Et nous allons reprendre l'interview juste après cette petite mise en page là. Alors Anthony, je vais un peu revenir sur cette fameuse rampe parce qu'elle a une histoire, parce que vous l'avez récupérée.
Et oui, je l'ai récupéré. Oui, ça a été toute une histoire, en fait. Si vous voulez, quand on a passé autant d'heures d'entraînement sur cette structure où j'ai appris vraiment toutes mes figures et même les bases que j'ai aujourd'hui viennent de cette rampe. À l'époque, ils ont voulu donc du coup la démonter, la jeter. Ils comptaient donc la broyer, mettre tout à la ferraille, parce que la municipalité voulait plus faire de frais pour les réparations et tout ça, et donc en mettre une nouvelle. Et donc je me suis mobilisé avec les services des sports de la mairie de Toulon pour me proposer à la récupérer, à la démonter. Et donc c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'était un peu rocambolesque, mais on a réussi à le faire. Et je l'ai stocké pendant près d'une dizaine d'années jusqu'à arriver à pouvoir la remonter sur le site du Vallon du Soleil suite à des projets qu'on a proposés avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Alors vous avez eu une victoire, la première victoire, je ne me souviens plus, c'était celle de Cannes ou de Antibes, là, c'est
ouais,
ça
Cannes, ouais.
Cannes, voilà. Oui, Cannes. Et c'est là que les sponsors commencent à s'intéresser à vous, notamment des Français, mais aussi un Américain. Et j'ai noté une de vos phrases où vous dites, une de vos phrases que j'ai bien aimée, vous dites « Je suis passé d'inconnu » à petit connu.
Oui, inconnu à petit connu, oui, parce que j'étais du coup inconnu, et puis effectivement il y a des distributeurs américains et des marques qui m'ont sponsorisé. Je suis arrivé après ils m'ont ouvert les portes en fait sur un univers, l'univers amateur professionnel, avec une grosse compétition qui était organisée par les Américains, c'était à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un vrai gap entre mon niveau actuel.
Anthony, je vous coupe. Un vrai gap.
Oui.
La traduction de gap. Attention.
Un vrai gap, bah, c'est un saut, en fait. Voilà.
Voilà, très bien.
Et donc, du coup, je me suis rendu compte que j'avais une marge de progression à atteindre pour pouvoir arriver au niveau professionnel. Et donc petit connu parce que bah, j'étais encore petit dans le monde des grands, on va dire, de ce sport, quoi.
Alors j'avais noté, j'allais le dire, voilà, vous êtes dans une vraie compétition avec des pros américains à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le niveau n'est plus le même. Et j'ai noté aussi que comme vous avez les sponsors, ils vous donnaient vachement de matériel et vous, le matériel, vous le donnez à vos potes.
Oui,
vous
ne
le
ça.
Gardiez pas, vous... Enfin...
Ben, en fait, oui, c'est vrai que d'un coup, les portes sont ouvertes. Et puis, j'ai eu une quantité énorme de matos, des roues, des protections et tout ça. Et puis, du coup, j'étais dans le partage. Et c'est vrai que je donnais beaucoup de matos autour de moi, aux collègues qui roulaient avec moi, avec qui on partageait la même passion, ben, parce que j'en avais trop pour moi-même. Donc, voilà.
C'est votre côté altruiste, je vais dire.
Peut-être.
C'est sûr ça. Alors, Anthony, votre parcours scolaire vous rattrape, car vous n'étiez pas dans ce domaine un premier de la classe, si je puis me permettre. Et vos parents étaient là pour vous le rappeler. Ils ont une phrase, tu ne vas pas faire ta vie avec ça. Et j'ai adoré la réponse aussi de votre fils, quand vous lui tenez le même discours. Votre fils, car il joue avec ça, une DS, il a. Et votre fils vous répond, si, il y a des concours et les mecs gagnent des millions.
Oui, voilà, oui, c'est vrai que pour revenir, bon, l'école, en fait, c'est pas que c'était pas vraiment mon truc, c'est qu'ils arrivaient pas à canaliser l'énergie que j'avais en moi. Donc, voilà, moi, j'étais plutôt un élève du fond de la classe collé à la fenêtre. Et j'étais très, très jeune, j'étais posé plus sur des questions existentielles de comment fonctionne le monde, pourquoi le soleil, pourquoi la lune, pourquoi la nuit. Pourquoi la nature, pourquoi tout ça, et donc j'avais pas forcément les réponses auxquelles je me posais, c'est-à-dire que moi ça m'intéressait pas de savoir si les lettres prennent 2 R ou 2 S. Voilà, j'avais plus une autre vision par rapport à ça. Et donc après c'est vrai que quand j'ai accroché sur le roller, vu que je vous ai dit déjà, mais mon père et toute ma famille travaillaient dans des voitures et c'était des gros bosseurs. Mon père n'avait pas la vision que je pouvais avoir, et j'ai envie de dire c'est normal. À cette époque-là, et comme moi à mon époque, parce que je le transfère sur un de mes fils qui du coup est passionné de jeux vidéo, Et donc c'est vrai que voilà, il m'a répondu une fois parce que je lui ai dit mais comment on peut gagner sa vie avec les jeux vidéo, et puis il m'a expliqué. Ouais. Et donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention souvent à ce qu'on dit, mais moi je pars du principe que il faut pas dire à ses enfants que ça c'est pas possible, il faut leur donner tous les moyens d'expression et leur dire que tout est possible. Donc je pars de cette base là, tout est possible, même si je peux me tromper. Mais c'est vrai que voilà, quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. Et des fois, on a un petit peu peur de ce que l'avenir peut réserver. Et on va utiliser des mots qui ne sont pas forcément adaptés ou qui ne vont pas correspondre à notre enfant. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la vie avant tout et leur donner le meilleur, voilà, pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc du coup, moi, mon père pensait que je n'allais pas faire ma vie avec le roller. Et j'ai fait ma vie actuellement avec le roller, voilà.
Alors, vous êtes toujours considéré plus ou moins comme un amateur et vous essayez de passer pro, je crois. Vous avez comme sponsor, vous avez Rollerblade, exact, oui. Puis Salomon. Alors, j'ai noté que vous n'aviez pas de gros salaire, mais tous les frais étaient payés.
Oui, c'est ça, oui. Les premiers sponsors, ils nous, au-delà du matériel, après, ils nous ont envoyés sur un circuit, donc circuit qui était géré par des Américains, donc amateurs. Et si on arrivait donc à gagner ce circuit ou être dans les 3 ou 10 premiers, je ne me rappelle plus exactement, on pouvait accéder au niveau professionnel la saison d'après. Donc la première saison, je me rappelle en Allemagne, j'avais loupé les qualifications. Et la saison d'après, j'avais réussi à me qualifier. Et donc c'est vrai que les sponsors payaient les déplacements. J'avais rien à payer, j'étais mineur. Et puis je commençais déjà à découvrir le monde grâce à ça, quoi.
Vous écumez le continent européen, puis vous partez au State avec l'équipe de France. Excusez du peu.
Oui. À l'époque, c'était mon rêve dès le départ. Parce que quand j'ai commencé le roller, j'avais vu une vidéo donc, où on voyait les East Games, les Extreme Games. C'est un peu comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Et c'est vrai que ça m'avait frappé l'esprit et je voulais absolument pouvoir vivre ce rêve et découvrir aux États-Unis. Donc j'ai effectivement été sélectionné dans cette toute jeune équipe de France et on est parti aux États-Unis. Et ça, c'était vraiment un aboutissement qui est arrivé assez rapidement parce que c'est 4 ans après, donc à 18 ans, que j'arrive aux États-Unis, quoi.
Je l'ai noté. Vous me devancez chaque fois dans mes questions, ouais. Mais c'est bien parce que excellente mémoire. J'ai dit, vous êtes sur le halfpipe, correct. Mmh. Et là, on vous dit, oh, tu nous as plu. Tu es qualifié pour les East Games.
Ouais, c'est ça, exactement. Je suis à San Diego. Je fais ma prestation en rampe. Je suis interviewé par les télés américaines et tout ça. Je parle anglais comme une vache espagnole, on va dire, à cette époque-là. Et donc, c'est vrai qu'ils sont venus me voir et ils m'ont dit « On t'a remarqué, tu nous as plu, on aime bien comment tu roules, t'es qualifié pour les East Games. » Alors là, ça a été le choc, quoi, incroyable.
Et il va y avoir un deuxième de choc. Donc, je n'avais pas fini ma phrase. J'allais dire « Il venait d'avoir 18 ans, Dalida. » Alors, vous naviguez sur le sol américain et au Staples Center, c'est correct ce que je dis, c'est le deuxième choc. Il y a une hauteur de 54 mètres.
Alors, ce n'est pas une hauteur. Ah. C'est parce que la première fois, en 2002, je fais les East Games, c'était à Philadelphie. Je n'avais pas réussi à accéder au final. Et en 2003, du coup, je réitère les qualifications. Et là, c'est Los Angeles Staples Center. Et en fait, non, la rampe, elle fait 54 mètres de large.
Ah, de large ?
Ouais, de largeur. D'accord. Après, c'est une hauteur de 4 mètres avec d'autres hauteurs. Mais en fait, si vous voulez, les rampes qu'on roule d'habitude, c'était du 12 mètres de large ou du 24 mètres de large. Et quand je suis arrivé dans le Staples Center, parce que j'ai vu cette rampe, j'ai complètement halluciné. Parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour m'entraîner, enfin, pour faire la compétition là-dedans ? J'avais jamais roulé une rampe aussi longue et haute. Et voilà, pour la petite anecdote, du coup, moi, je roulais que sur la rampe des plages du Morillon qui faisait 6 mètres de large et 1,90 m de haut. Donc, quand tu fais la comparaison entre 54 mètres et 4,10 m de haut, voilà. Et donc, c'était comme ça. J'ai toujours appris sur le tas.
Alors, je disais, il y avait une comparaison avec celle du bol de Marseille, le bol.
Le bol de Marseille, oui. C'était à peu près. Le bol de l'escale Borély, oui. C'est un équipement que j'ai beaucoup roulé, où j'ai fait mes armes. Il y a même des amis très proches à moi, comme Kevin Quintin, qui est un champion aussi de roller, avec qui j'ai énormément partagé de séances de riding et d'entraînement. Et donc voilà, le bol de Marseille, je connais très très bien.
Super. Je vais revenir un instant sur l'équipe de France. En 2002, vous faites une tournée. Alors moi, j'ai marqué promotionnelle, mais ce n'était pas tout à fait le fait. Agadir.
Oui, on est parti à Agadir, au Maroc, pour faire des démonstrations. Alors à l'époque, je n'ai pas trop, moi, là les tenants et les aboutissants, mais la fédération avait des relations internationales avec la fédération marocaine. Et donc, il y avait une espèce de tournée qui se terminait à Agadir, où on a fait une grosse démonstration donc sur la place. Là, et c'était bien, bien, bien cool.
J'ai une autre anecdote, là. Je pense que c'était aux États-Unis, oui, sur les East Games. Vous avez failli être disqualifié une fois.
Ah, ouais.
Est-ce qu'on peut la raconter, Anthony ?
Oui, on peut l'aborder. Ça a été compliqué à gérer. J'avais un tempérament assez impulsif quand même. Et en fait, quand on fait 12 000 km pour participer à la compétition de ses rêves et qu'on donne le tout ce qu'on a, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait passer un Américain devant moi, mais qui ne méritait pas, à mon sens, parce qu'il est tombé pendant sa prestation, et ils l'ont mis une place devant moi. Et j'ai eu une réaction qui n'est vraiment pas bien, à chaud. J'ai jeté une bouteille d'eau sur les juges.
En plastique ?
En plastique,
bon,
oui.
Ça va. Ouais, ouais.
Mais bon, oui. ce geste, maintenant, avec le recul, il était complètement disproportionné. Et donc, les Américains, ils rigolent pas du tout avec ça. Et donc, oui, ils ont voulu me disqualifier pour ce geste-là. Oui.
Mais vous êtes passé à travers les mailles du filet, on va dire.
Voilà, c'est ça. Oui, bon. C'est la première fois que j'ai appris le mot « apologize », qui est que je présente mes excuses. Voilà.
Sur Toulon, vous avez un ami, donc Kevin. Et pour vous déloger de la rampe, je reviens sur Toulon, il fallait presque appeler la police municipale. Parce que quand vous arriviez, il fallait qu'il n'y ait personne et vous laissiez la place à personne. Est-ce correct ?
Alors,
vous vous en souvenez peut-être pas ?
Non, j'ai pas trop de souvenirs que j'ai laissé la place à personne. Non, parce qu'on a toujours été dans le partage. Donc voilà, non, ça, je sais pas.
J'avais noté sur l'interview que vous et Kevin, vous étiez là, vous disiez, je crois, vous êtes des pros, nous on est là.
Vous parlez d'une autre anecdote. C'était notre première compétition internationale. Il y avait un festival donc, qui était à Lausanne en Suisse, et donc sur ces grandes rampes là. Et en fait, on avait tellement d'énergie et tellement de passion que, en fait, si vous voulez, il y a des codes à respecter quand on roule dans les rampes, surtout quand on est à plusieurs, c'est qu'on doit laisser chacun son tour rouler, prendre la place pour pouvoir s'entraîner, tout ça. Et donc, du coup, dans ma tête de jeune, j'étais entouré de tous les professionnels de rampes que j'admirais, mais je n'étais pas là, moi, pour les regarder, pour les admirer. J'étais là pour rouler, pour apprendre et apprendre le plus vite possible et donner le meilleur. Donc, en fait, à chaque fois, on appelait ça snaker. Snake, c'est en mode serpent. C'est-à-dire qu'on prenait la place des autres et je faisais exprès de faire des airs pour serrer les pros, pour un peu leur faire peur, pour qu'ils puissent sortir de la rampe. Et c'est vrai qu'à la fin, on les agaçait. Ils étaient très énervés contre nous. Et donc, voilà, moi, je leur répondais qu'eux, ils avaient des rampes chez eux, que moi, j'avais pas de rampe et que c'était à mon tour. Voilà.
Alors, Anthony, on nous sommes pris un peu par le temps. J'annonce la deuxième pause. Quand tu fais danser, réfléchis après. Pour moi, tu aimes quand tu fais danser. Tu me fais danser.
si t'es chaud. J'aime pas quand c'est doux, baby. J'aime bien quand on fait beaucoup. Troisième fois pour voir, j'en perds un peu pour ce soir. J'aime pas quand c'est doux, baby. J'aime bien quand on fait beaucoup. J'aime pas quand c'est doux, baby. J'aime bien quand on fait beaucoup. J'aime bien quand on fait beaucoup. J'aime pas quand c'est doux, baby. J'aime bien quand on fait beaucoup.
Prendre le temps d'écouter. Vraiment. Chaque lundi, une semaine sur deux à 18h sur Gapo FM, retrouvez l'émission Sans Filtre by ALM. Une interview en profondeur. Le portrait d'une personnalité locale qui se raconte sans détour. Parcours, choix, moments clés. Ici, la parole est libre, posée, sincère. Un rendez-vous pour comprendre, découvrir et voir autrement celles et ceux qui font vivre notre territoire. L'émission Sans Filtre by ALM, le rendez-vous où l'on va au fond des choses.
60 ans, 60 ans.
Papa, 60 ans, c'est vieux ?
Un petit peu.
Alors Hockey Corral, c'est vieux ?
Eh, hey, pas du tout. À 60 ans, ils ont encore des attractions, des spectacles de cow-boys et d'indiens, Zorro et plein de surprises.
Ah oui ! Alors ils sont en forme.
Et prêts à t'étonner.
Hockey Corral fête ses 60 ans. Venez redécouvrir la légende. Ouvert tous les week-ends et ponts de mai à Cuges-les-Pins.
Alors, je suis toujours avec Anthony Avella. Le temps passe vite. J'espère que je vais avoir l'occasion de lui présenter toutes mes questions. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai un tel invité et il faut que je raccourcisse un peu.
Je vais essayer de répondre plus court.
Ça va aller. Je ne remonte pas le curseur, là, ce n'est pas grave. Donc, on va reprendre de suite l'interview. Je disais, donc là, j'avais fait un petit astérix donc, pour être dans la chronologie exacte. Et je m'y retrouve. Donc, je reviens un peu en 2009, Anthony, où vous avez, avec un BE en poche, on vous propose le poste d'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2012-2013.
Voilà, oui, j'ai eu une période où j'ai mis un peu ma carrière de côté, on va dire, au niveau sportif, pour m'essayer à ce poste-là. Voilà, ça a été une expérience très enrichissante au niveau humain et sportif parce que c'est pas facile d'être à ce poste à responsabilité. Et donc voilà, mais c'était sympa.
Alors toujours avec Kevin, vous faites les World Skatecross Series.
Ouais.
Et vous vous autorisez une phrase prémonitoire. Vous avez dit, les gars, préparez-vous car en 2013, j'arrive et je gagne tout.
Alors ça c'est moi qui l'ai dit. En fait, si tu veux, mon ami Kevin a été champion du monde de cette discipline donc en 2012. Il faut savoir que c'est un très bon ami à moi qui m'a toujours poussé un petit peu à essayer des disciplines alternatives, par exemple comme le roller foot. Et donc je me dis, allez, en 2013, allez, je vais essayer. Et en fait, avant la saison, parce que je connais mes capacités sportives et la façon dont j'ai de faire du roller, je savais que j'avais une très grosse accélération de départ. Et en fait, sur un groupe Facebook où il y avait tous les athlètes de cette discipline, je leur avais envoyé un message, je leur avais dit, attention les gars, j'arrive et je vais tout gagner.
Et vous avez tout gagné.
C'est ça.
Et c'est là que vous, en 2013 et 2014, vous êtes champion du monde.
Voilà, exactement, sur la discipline du skate cross qui consiste à passer le plus vite possible en fait, des obstacles où on est à 4 au départ, un peu comme le ski cross qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques, mais là c'est en version roller, bitume, avec des rampes et des obstacles des fois assez fous. Et donc voilà, il y a eu plusieurs étapes, Moscou, Barcelone, avec une finale à Shanghai. Et je l'ai gagné, donc du coup, deux années d'affilée, oui.
Super, donc double champion du monde. Alors, je redescends un petit peu, toujours avec votre ami Kevin, là. Vous avez une découverte, c'est le roller soccer. Ouais. Pour les puristes, roller football.
Voilà, roller foot. Roller foot, c'est du foot en roller, en fait, un peu comme le futsal. On est à 5 contre 5, il y a deux fois 25 minutes de mi-temps. Et c'est vrai que donc, mes amis marseillais, ils étaient partis en fait en Allemagne, ils avaient découvert cette compétition. Et quand ils sont rentrés, mon ami Kevin du coup m'a appelé et m'a dit, ah, il faut que tu montes une équipe à Toulon, tu vas voir, c'est trop cool et tout. eux. Donc on est allé faire des petits échanges comme ça avec eux. Et c'est vrai que moi, le foot, j'en ai toujours fait avec les copains le dimanche. Voilà. Et ça m'a plu de suite. Et du coup, on a accroché, on a créé la première équipe toulonnaise de roller soccer.
Donc, à cette occasion, vous montez votre propre club en 2005-2006. 2006. Alors, j'ai noté Utopie, puis RSCT.
Ouais.
Petit clin d'œil au RCT.
Voilà, c'est ça. Et oui, parce qu'on est des Toulonnais. Donc, et puis, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, j'aurais pu nommer l'association RCT, Roller Club Toulonnais. Donc, on a mis un petit S pour la subtilité. Et à l'époque, en fait, j'ai trouvé ça quelque chose de magique. C'est quand il y avait Mourad Boudjellal qui était président du RCT. C'est vraiment quelqu'un qui a apporté de la magie dans le sport et sa manière de communiquer qui était très américaine. Moi, j'ai de suite accroché avec sa manière de communiquer et ça a été pour moi les plus beaux temps du RCT. Et donc, c'est vrai que ça a été un petit clin d'œil. J'ai voulu un peu surfer aussi, moi, sur la vague et montrer que je savais communiquer aussi.
Avec Anthony, toujours une référence, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, car on vous appelait les bouchers.
Ah,
pourquoi
oui. Ah ben les bouchers pour l'équipe de Toulon, parce que nous, on savait pas jouer au foot. On était des guerriers, on était des vaillants, donc c'est vrai que c'est peut-être l'esprit rugby qui nous représentait le plus. Et c'est vrai qu'on découpait tout le monde, quoi. On ne savait pas jouer, on enfonçait, on mettait des mêlées en même temps. Et donc, du coup, on a été naturellement surnommés par nos amis marseillais parisiens, les bouchers.
Voilà. Alors justement, vous jouez contre les Marseillais, mais pas ceux de Cancun. Et vous participez à la première Coupe du Monde des clubs à Paris en 2007, mmh. organisée par Planète Roller.
C'est ça, oui.
Et quel a été votre classement, si vous en souvenez?
Oula, alors là,
je l'ai noté, Anthony.
Le classement en 2007, je crois qu'on est arrivé jusqu'au quart de finale, il me semble. Alors contre bon, qui et comment, je sais.
C'est pas grave, j'avais noté quatrième ou cinquième. Vous avez répondu
je pense
à l'époque.
On a dû sortir au quart de finale.
Voilà. Ouais. En 2009, vous faites une demi-finale en Belgique, je crois, puis Amsterdam en 2013. Entre-temps, c'est une autre rencontre qui va être déterminante pour vous, avec Monsieur Sabri Ali Messaoud, qui va modeler votre équipe.
C'est ça, exactement, oui. Sabri, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis longtemps, qui était de l'équipe de Marseille, avec qui on faisait aussi du roller freestyle au bol du Prado. Lui, il a joué pendant beaucoup de temps avec les Marseillais, et puis à un moment, à la fin d'une saison, il est venu me voir et il m'a dit, écoute, j'ai un projet pour Toulon, j'aimerais pouvoir entraîner l'équipe, parce que je pense que vous avez les qualités, mais qu'il vous manque les bases footballistiques. Son père était un professionnel de rugby en Algérie, toute sa famille aussi, son oncle est un entraîneur de football ici à Toulon. Donc voilà, il est venu et en fait il a repris les bases, il savait qu'on avait tout le roller qu'il fallait mais pas le foot et il a modifié l'équipe, il nous a entraîné à vraiment devenir des footballeurs à roller, voilà.
Exactement. Et à Amsterdam, à une époque, vous jouez contre Zaandam et vous perdez 1-0, mais vous montez en puissance.
En fait, à chaque compétition qu'on faisait de Coupe du Monde, à chaque fois, on grattait une place. Et donc, c'était tous les deux ans. Et donc, en 2013, il me semble qu'on perd en finale contre l'équipe de Marseille, parce que c'était une Coupe du Monde des clubs. Hein. Et donc après, on a décidé de l'organiser, nous, en 2015.
Exactement, j'allais y venir. Alors en 2015, à Toulon, c'est le Graal. Vous avez une victoire contre les Phoenix Foot de Marseille, 3-2. Alors là, je vais un peu vous titiller, Anthony, comme je titille souvent mes invités. L'émotion est à son comble. Vous êtes envahi par un ascenseur émotionnel. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que cette compétition que j'ai organisée, le premier jour de la compétition, mon père décède. Et donc du coup, voilà, je suis... vous savez, quand on perd son père, on perd une moitié de soi-même quand on perd un de ses parents. Et donc du coup, j'ai dû avancer avec cette partie de moi en moins. Et en fait, il y a eu tout un truc qui s'est mélangé entre tous les membres de l'équipe, parce que s'il faut penser aussi aux autres, quand vous êtes capitaine de l'équipe et que vous arrivez le premier jour et vous dites voilà, votre père est décédé, ça met un coup au moral à tout le monde. Mais en fait, en même temps, je crois qu'il y a tout le monde qui allait rechercher dans ses ressources au fin fond de lui-même et on a gagné. On a gagné à la fin, quoi.
Vous avez gagné 3-2 et j'ai noté que, alors on va en parler, quand vous regardez les images, il vous arrive encore de regarder, je ne sais pas si vous les regardez toujours, mais à l'époque, vous versiez une larme, j'avais noté, parce que vous avez été chamboulé au plus profond de vous-même. Et est-ce que c'est digéré maintenant ou
non,
plus ou moins...
Non, c'est pas digéré, non.
Ah, c'est toujours pas digéré.
Non. Ah. Non, c'est quelque chose, c'est des images que, oui, je peux pas les regarder sans verser une larme, même aujourd'hui. Ouais, non, c'est pas possible.
On va passer ce chapitre, alors. Je fais un petit retour en 2014, où vous essayez au Crashed Ice.
Le Crash Ice, oui.
Crash Ice, pardon, ouais. Mon anglais, t'as désiré, moi. Donc, du patin à glace, en gros.
C'est patin à glace, voilà. Mais extrême.
Voilà. Ouais. Vous partez en Finlande, comme vous dites, en mode Rasta Rocket.
Voilà, en mode solo, Rasta Rocket. En fait, je suis à la suite des championnats du monde que j'avais gagné en skate cross. J'ai croisé des athlètes de cette discipline, Red Bull Crash Ice. Et du coup, c'est des descentes extrêmes sur glace avec des pentes à plus de 45 degrés. Et donc, je décide de m'essayer dans l'objectif de me dire, ben, si t'es bon, tu continues. Et puis, donc, je pars sur un coup de tête en prenant des patins à glace qu'un collègue m'avait donné. Dany, je te remercie. Et puis, je pars en Finlande tout seul, ouais, tout seul. Alors, voilà, comme je dirais à Star Rocket, parce que ben, à Toulon, il fait chaud, on a la mer, on a les cigales. Et je suis parti dans un pays où c'est la glace et le froid qui règnent.
Le voilà. Terme était correct, grâce à Rocket. Et j'ai noté que vous étiez surpris par le gabarit de vos adversaires. Il y a même une anecdote sur un de vos patins, si vous en souvenez.
Oui, je suis surpris parce que moi j'arrive là-bas, il est 5h du matin, je suis dans le vestiaire avec tous les athlètes et je vois vraiment des bêtes. Je me rappelle, c'était des frères canadiens, là, des joueurs de hockey qui faisaient 1m80, je ne sais pas combien de kilos. Bon, moi, je suis un petit gabarit. Hein, je suis 1m63 sur 68, 69 kilos quand je suis en forme. Donc, je m'imaginais ces mecs-là qui m'écrasent dans les barrières. Si je vais mourir. Et donc, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'en fait, sur les premières descentes, dès le début, je me suis emplâtré à chaque virage, j'arrêtais pas de tomber, de rentrer dans les barrières. Il n'y a qu'au bout de mon troisième essai, on m'a dit « Bon, c'est bon, maintenant, c'est ton time trial, donc c'était temps d'essai, c'est maintenant que tu vas commencer les qualifications. » Et j'arrive à descendre toute la pente sans tomber, miracle. Et juste arrivé en bas, quand je freine, j'ai la lame du patin qui se casse. Et donc du coup, arrêt du jeu ici, quoi.
Arrêt buffet. Vous rentrez en France, mais vous ne voulez pas rester sur cet échec et vous achetez du bon matos ce coup-ci et direction Moscou où vous vous blesserez et l'aventure s'arrêtera là.
Oui, voilà, oui, je suis rentré et je me suis dit, bon, tu ne peux pas rester sur ce truc-là, donc tu vas prendre du bon matos et tu vas refaire un essai. Donc oui, je suis reparti tout seul donc, à Moscou. Et alors là, ça s'est mieux passé avec le matos, je me sentais un peu mieux, j'ai réussi à passer les phases de qualification un peu plus facilement, je tombais beaucoup moins, j'arrivais à maîtriser, ça commençait à me parler, on va dire, plus ou moins. Donc, et la première course de qualification que je fais, en fait, j'arrive dans un virage un peu fort, je tombe et je me vrille le genou, une genre d'entorse au genou. Et donc, je suis sorti de la piste et j'ai arrêté là parce que... mon but, c'était si t'es bon de suite, tu continues. Si tu vois qu'il y a trop d'entraînement à voir et ma marge de progression, voilà. Puis en plus, j'avais déjà dépensé 3 000 € pour faire ces deux étapes. J'ai dit, c'est bon, on arrête là et on reste concentré sur ce qu'on sait faire.
Exactement. Anthony, nous allons finir, on en saura bien, sur votre club. On va un peu parler de votre club qui est situé au Vallon du Soleil et qui s'appelle M-Glisse, diminutif de Métropole Glisse.
Oui, c'est ça, oui. Donc, Métropolis. Donc, on est basé, disons qu'on a créé un espace d'entraînement pour le roller, la trottinette et le skateboard au Vallon du Soleil. Ça s'appelle le M-Glisse Park. Après, on donne aussi des cours sur le territoire, le bassin métropole Toulon-Provence-Méditerranée, notamment à Toulon, à Carqueiran. Donc, on est basé sur plusieurs endroits. Notre site internet, si vous voulez prendre des cours, c'est www.mglisse.com. On donne des cours de roller, donc de trottinette freestyle, de skateboard. On donne des cours pour des adultes, pour des enfants. On fait des stages aussi pendant les vacances scolaires. Notamment, on a des prochains stages cet été qui sont disponibles, les inscriptions. Et voilà. Et je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais si tu veux, j'enchaîne avec l'événement qu'on va organiser le 3, 4, 5 juillet.
Pas de soucis.
On accueille le championnat de France donc de roller freestyle halfpipe. Et une Coupe de France 3 étoiles sur le skatepark avec des gros professionnels, des grosses têtes d'affiche, des membres actuels de l'équipe de France qui seront là. L'entrée est gratuite pour les visiteurs, donc n'hésitez pas. Ça se déroulera donc le week-end du 4 et 5 juillet au Vallon du Soleil à La Croix.
Parfait. Alors, je ne vais pas vous questionner puisqu'il ne nous restera que 3-4 minutes pour finir. J'avais noté que pendant les années Covid... c'était un peu limité pour les adultes. Vous avez eu un double emploi. Vous étiez veilleur de nuit.
Oui, oui. Quand il y a eu le Covid, oui, on a. Bah, du coup, on pouvait plus travailler. Et puis, moi, rester sans travail, c'est quelque chose qui est pas possible. Donc, vu que mon oncle est aussi veilleur de nuit, il m'a proposé. Et en fait, voilà, je suis arrivé comme ça en faisant de l'intérim. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais.
Les années Covid. Vous avez monté votre propre entreprise, en fait, puisque vous avez du personnel en CDI, j'ai noté Jonathan.
Oui, c'est ça. Alors oui, après, on a eu quand même pas mal de mouvements. Donc, en fait, c'est l'association. Moi, je suis devenu directeur de l'association. C'est une association employeuse. Donc, on a Amandine Condroyer, qui est aussi sportive de haut niveau, qui a fait du Red Bull Crachas, elle, beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, et qui s'en sort très bien, qui a été championne du monde, qui est actuellement la monitrice phare de roller freestyle dans le club. Après, on a des encadrants en trottinette, des encadrants en skateboard. On a une responsable administrative et moi-même directeur. Donc voilà, c'est
une petite entreprise.
Voilà, mais c'est associatif.
Donc, tout à fait. Je viens sur un sujet parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Mm-hmm. C'est important. Il y a des problèmes qui ont surgi avec les riverains. Et si vous me le permettez, Anthony, j'ai toujours à la bouche cette phrase d'un socialiste anglais qui dit « not in my garden ». C'est-à-dire que les gens veulent bien un aéroport, une gare, un cimetière, mais pas devant chez moi. Et donc vous avez votre structure là-bas. Et alors, ce n'est pas des plaintes peut-être, ce sont des réclamations qui arrivent
à la mairie. Oui, après ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Il y a des choses de notre côté qu'on doit améliorer, que je nie pas. Les infrastructures, en fait, on les a construites nous-mêmes. Avec la volonté, avec de l'argent associatif sur fonds propres. J'ai employé des amis à moi qui ont leur entreprise de soudure pour venir faire le skatepark. On a eu énormément de bénévoles qui sont venus nous aider à mettre toutes les plaques et tout ça. Donc forcément, on a des choses à améliorer. Et les plaintes du voisinage, on va dire qu'en quelque sorte, sont légitimes parce que des structures, elles font du bruit. Donc on apporte des solutions pour réduire le son des infrastructures. Après, le son zéro, on n'arrivera jamais à l'avoir. Et moi, mon but, c'est de pouvoir m'exprimer, faire exprimer la jeunesse. On a un club qui compte 250 licenciés, plus une centaine de membres du Emily's Park. Donc, on tourne à 350 membres dans l'association. On a énormément de gens qui sont satisfaits du boulot qu'on fournit. Les enfants sont épanouis. Donc voilà, à nous de trouver les solutions pour réduire au maximum le bruit du skatepark. On a déjà commandé des plaques de bois pour isoler les infrastructures, surtout du côté du maison. Après, il faut savoir que le Vallon du Soleil, c'est vraiment un vallon, on est tout en bas. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui crie ou quelqu'un qui tape dans les mains, bah, tout le son remonte et tout le monde l'entend. Donc après, le vallon a toujours été là, c'est une infrastructure sportive, les maisons sautent autour. Voilà, donc je peux comprendre des fois les gênes et donc à nous de faire au
mieux. Je sais que vous allez faire le maximum, Anthony. Nous arrivons à la fin de l'émission, Anthony. Je renvoie un peu le générique pendant quelques secondes. Donc moi, je tenais à vous remercier, Anthony, d'être venu. Voilà, vous êtes mon 4e invité. On aurait pu avoir plus de temps parce que je pense qu'on l'aurait trouvé. J'aurais trouvé des questions et on a zappé un petit peu, mais c'est pas grave. L'essentiel est fait. Donc je vous remercie encore une fois Et je vais conclure cette émission en vous présentant ma prochaine invitée, qui sera une dame. Le 25 mai exactement, ça sera Madame Gaëlle Rouault, qui est lieutenant-colonel de la gendarmerie et qui est elle également commandante de compagnie. Merci aux Gapoziennes et aux Gapoziens et ceux des alentours d'avoir été à l'écoute de votre station préférée, à savoir Gapo FM 100.9, dans l'émission Sans Filtre by ALM. Ciao.
Ciao, ciao.